Ouvrons maintenant la Bible au livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas trahir une confidence que vous dire que Nicolas a quelques réserves sur les risques de mysticisme, au sens où l'expérience mystique est a tendance à nous avaler très rapidement, et donc j'ai voulu retenir un texte extrêmement pratique pour que nous ne nous enfuyions pas dans une évanescence. Donc dans le livre des Actes des Apôtres, j'ai retenu ce moment où Pierre, que certains considèrent comme le premier des papes, va à la rencontre d'un centenier, c'est-à-dire d'un chef militaire de la cohorte dite italique ou italienne. Et donc au chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, je vous lirai tout d'abord le verset 28, après quoi je vous lirai les versets 34 à 48, ce qui correspond aux propos que Pierre tient à cet homme qui s'appelle Corneille. Vous savez, dit Pierre, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Donc un peu plus loin, à partir du verset 34, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Avant de nous plonger plus en avant dans ce texte, ouvrons notre recueil de chants « Louanges » et prière au cantique 415. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 qui expriment le souhait d'une existence authentique auprès de Dieu, dans des métaphores un peu bucoliques. Éternel, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Alors que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie, et que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, l'auteur des Actes des Apôtres, en ce passage, nous donne l'occasion, du moins est-ce mon hypothèse, de constater que le dialogue interreligieux d'une part et le refus de la corruption d'autre part sont les deux faces d'une même médaille. Je pense que cela ne vous aura pas échappé à la lecture de ce texte. Nous pourrions être tentés de penser que le dialogue interreligieux, voilà une question vraiment spirituelle, théologique, qui concerne notre établissement, mais que la question de la corruption est plus spécifiquement politique et qu'elle nous intéresse moins. Eh bien, il me semble juste de considérer à la lumière de ce texte que l'une et l'autre sont des expressions voisines d'un même point de départ théologique. Et ce point de départ, nous le trouvons au verset 34, que je vous retraduis à ma manière. Ce sont les premiers mots que Pierre adresse à Corneille une fois qu'il est rentré chez lui. Il s'adresse également aux autres personnes de sa maison, et il leur dit ceci: « Dieu n'est pas un preneur d'otages ». C'était traduit ici par « Dieu ne fait exception de personne ». Alors en grec, c'est un peu compliqué à traduire. La phrase, c'est en forme de « Dieu n'est pas quelque chose », et ce quelque chose, c'est « prosolemtes ». Je ne vais pas vous faire un grand cours de sémantique, d'autant que je ne suis pas très bon en la matière, mais on a « prosopone », qui est le fameux visage, le masque grec, qui donne « personne », et puis « lambano », qui est le fait de « prendre ». Et donc, c'est « prendre quelqu'un ». Donc, vous voyez, preneur d'otage, ce n'est pas extravagant comme traduction. Ne faire acception de personne, on pourrait dire, comme la King James, Dieu n'est pas un accepteur de personne. L'accepteur, c'est celui qui prend une charge sur une personne. Et donc, quelle est l'idée derrière ce verset? C'est que Dieu est impartial. C'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et parfois, c'est même traduit comme cela, notamment par la traduction œcuménique de la Bible. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et voilà qui m'intéresse. Parce que cette affirmation a deux conséquences que nous allons maintenant explorer, celle du dialogue interreligieux et celle de la corruption. Donc, la première conséquence du fait que Dieu n'est pas un preneur d'otages, et je maintiens ma traduction, est dite par l'apôtre Pierre un peu plus haut d'ailleurs dans le récit des actes que je vous ai fait. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré, Pierre fait preuve d'une révélation particulière, Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Et puis un peu plus loin, au verset 35, cela est confirmé par la citation suivante. « En toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. » Le peuple de Dieu n'est donc pas limité à une catégorie particulière. À l'époque des premiers apôtres, les Juifs n'avaient pas le monopole de Dieu. Aujourd'hui, ni eux, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les religions védiques, ni qui que ce soit ne peut s'arroger un droit particulier sur Dieu. Et Dieu, en retour, n'est pas plus présent chez les uns que chez les autres. Il n'est même pas plus présent chez les croyants que chez les non-croyants. Ici, les païens font figure de personnes qu'on qualifierait aujourd'hui d'athées. Et c'est en ce sens que nous pouvons comprendre la mention de cette souillure ou cette impureté. Sont purs ceux qui sont agréés par Dieu. Et donc ceux que l'on estime loin de Dieu, on les considère comme impurs. Du coup, en affirmant que nul ne peut être tenu pour souillé ou pour impur, Pierre, dont certains considèrent qu'il est le premier des chefs de l'Église de Rome, dit que nul ne peut être considéré comme éloigné de Dieu. Nous sommes tous à équidistance de Dieu. Dieu est présent pour tous, auprès de tous, sans distinction, sans exclusive. Et c'est là que nous pouvons constater que l'histoire connaît des cycles intéressants sur le plan historique, sur le plan humain un peu moins peut-être. Parce que contrairement à l'époque de l'Inquisition où il était possible de dire « tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », sous-entendu « il y a les bons et les mauvais », eh bien ici, Pierre est en mesure de dire, et c'est corroboré par la fin de la péricope du passage biblique, « baptisez-les tous, Dieu a reconnu les siens ». C'est quand même singulièrement différent. Dieu ne prend personne en otage en en faisant son témoin unique. Dieu ne prend personne en otage en l'empêchant de bénéficier de sa présence. Dieu n'est pas un sélectionneur qui choisit quelques membres de l'humanité et laisse les autres sur le bord du terrain. Et s'il convient de parler de peuple élu, il convient aussi de distinguer élection de sélection. Bref, aussi étonnant que cela puisse paraître, Pierre, l'apôtre Pierre, ouvre la voie du dialogue interreligieux, puisque Dieu n'est pas confiné à une tradition spécifique ou dans une approche particulière. Il y a une expérience universelle de Dieu qui autorise, et pour ma part je dirais qui rend nécessaire, la rencontre avec celles et ceux qui ne partagent pas notre tradition religieuse. Celles et ceux qui ont une autre manière de nommer Dieu, peut-être même de ne pas le nommer, de s'intéresser à lui, d'en parler, de rendre compte de l'espérance qu'il place en nous. Autrement dit, il n'y a pas de mauvais interlocuteurs. Il n'y a pas de personne qui serait indigne d'une bonne discussion théologique. Étant entendu qu'une bonne discussion théologique peut se faire sans le vocabulaire spécifiquement chrétien. Je ne suis pas sûr que Dieu parle le chrétien couramment. En tous les cas, ce dont je suis sûr à la suite de l'apôtre Pierre, c'est que Dieu n'a pas de religion particulière. Et à mon sens, Dieu ne s'intéresse pas d'ailleurs vraiment aux religions humaines. Dieu s'intéresse aux hommes, aux individus. Et il ne s'arrête pas aux étiquettes qu'il se pose sur le front, voire dans le cœur. Dieu se moque bien de savoir si les réunions cultuelles ont lieu le vendredi, le samedi, le dimanche, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée. Peu lui importe la forme du lieu, peu lui importe le nom qui est donné à l'office, etc., etc. Dieu vient à la rencontre de l'homme, il vient à la rencontre de l'individu, il vient à la rencontre de chacun d'entre vous, qui que vous soyez, quel que soit le chemin qui vous a conduit jusque-là. Et après tout, si vous n'arrivez pas jusque-là, cela ne l'empêche pas d'aller à votre rencontre. Et cela sans faire acception de quoi que ce soit de votre identité et de la mienne en passant. En ce sens, on peut parler de grâce. Le mouvement de Dieu vers l'homme est bien un mouvement de grâce qui ne fait acception de personne. Et c'est une grâce qui est bien loin de la grâce à caractère juridique. La grâce de Dieu, c'est de relever le visage de l'homme pour qu'il puisse faire face à son histoire, pour qu'il voie l'horizon qui se dresse devant lui. C'est ce que nous redisions tout à l'heure à l'occasion de votre baptême, Nicolas. La grâce à caractère juridique, c'est moins gracieux que cela. Il s'agit de relever le visage de l'esclave qui n'avait pas le droit de regarder son maître jusque-là et de l'affranchir en en faisant un égal. Il y avait aussi cet usage de relever le visage du gladiateur qui n'avait pas le droit de regarder l'empereur et d'en faire ainsi un homme libre. À chaque fois, c'était le fait du prince. Choisir un visage à relever, c'était en fait exercer son pouvoir sur les individus en s'arrogeant le droit, le pouvoir de le rendre libre ou de le maintenir captif. Vous avez peut-être le souvenir, si vous avez vu le film « La liste de Schindler », de cet entretien entre Schindler et le capitaine qui dirige le camp de concentration. Où est le vrai pouvoir ? Pour l'un, c'était le pouvoir d'anéantir. Et Schindler, par un petit stratagème, lui fait comprendre que le vrai pouvoir, celui des empereurs, c'était de sauver la vie, de gracier. Et on le voit dans la scène suivante, avec un captif dans la ligne de mire, et finalement, il ne tire pas. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans son esprit en disant « je suis en train de me faire avoir ». Eh bien ça, ce n'est pas la grâce absolue, c'est le fait du prince, c'est un pouvoir, c'est le fait de pouvoir prendre les gens en otage. C'est comme le videur qui dit « toi tu rentres, toi tu ne rentres pas ». Ce n'est pas la grâce. Et donc, c'est là que nous voyons que ce sujet théologique a aussi une résonance à caractère politique et que cela peut nous conduire sur le thème du favoritisme, voire le thème de la corruption. En ne faisant pas acception des personnes, en rejetant tout favoritisme, Dieu devient une figure de l'incorruptibilité. Une figure qu'il était déjà. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 17, vous pourrez lire que Dieu, tout en étant le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, est aussi celui qui ne fait pas acception des personnes et qui ne prend pas de cadeaux. Autrement dit, qui n'accepte pas les pots de vin. Dieu ne prend personne en otage. Il n'accepte pas quelques situations où l'un ou l'autre serait privé de sa liberté. Chacun reste libre de ses agissements, de ses renoncements, de ses engagements, de ses compromissions, de ses exactions, de ses réactions. Que Dieu ne fasse pas de favoritisme a pour conséquence qu'il n'y a aucun impératif absolu pour que nous nous en fassions. On pourrait dire que c'est là un modèle de transitivité. Si Dieu est incorruptible, il serait bon que nous le soyons un peu aussi. Et comme on ne peut pas être un peu incorruptible, qu'on peut l'être totalement ou pas, il conviendrait que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Si nous accordons des passe-droits, si nous privilégions la candidature des petits camarades, si nous favorisons les projets des copains, soyons bien conscients que c'est avant tout pour notre intérêt personnel. A fortiori, quand l'argent est en jeu, c'est pour notre enrichissement personnel. Mais le narcissisme peut être un formidable levier, largement suffisant pour expliquer les phénomènes de corruption. Pour prouver qu'on a de l'importance à quelqu'un, on va lui montrer qu'on peut couper les fils. On peut lui montrer qu'on a le pouvoir d'accorder certains privilèges, qu'on peut trouver un poste à un tel en court-circuitant les procédures de recrutement. On va pouvoir accorder un tarif préférentiel. On va surclasser. On va réduire les délais d'attente. On va diplômer à l'aveugle, etc. Le favoritisme relève de la corruption. Lorsqu'on n'agit plus selon le droit, mais selon ce qui est juste seulement pour quelques-uns, pour soi, eh bien, nous sommes corrompus. Nous ne sommes plus fidèles à ce Dieu dont il est dit qu'il inspire à Jésus une manière d'être telle que toutes les personnes qu'il rencontre, il les guérit. Qu'il les guérit de ce qui est nommé la domination du diable, autrement dit, de ses tiraillements, de ses conflits d'intérêts. Jésus ne guérissait pas seulement ce qui lui était agréable, Jésus ne guérissait pas seulement les disciples, il ne guérissait pas seulement les familles des disciples, Jésus guérissait même ceux que les disciples ne voulaient pas passer, ne voulaient pas laisser passer. Jésus ne guérissait pas ceux qui lui mettaient une petite pièce de plus dans la main. Jésus a clairement compris que sa vocation consistait à prendre soin de l'ensemble des personnes qui lui étaient confiées, sans favoritisme sur quelque critère que ce soit. De ce point de vue-là, le baptême dit juste, le baptême ne souffre pas de critères qui seraient par exemple des critères machistes. Hommes et femmes peuvent être baptisés. Petits et grands peuvent être baptisés. Croyants de la première heure, croyants de la onzième heure peuvent être baptisés. Parce que Dieu ne fait pas exception des personnes. Alors soyons clairs. Ces pratiques antidivines qui relèvent de la corruption n'épargnent pas les milieux religieux ou les milieux formés d'une majorité de croyants. Nous pourrions penser être mieux équipés que les autres. Nous sommes mieux équipés que les autres aussi sur l'autre plan, à savoir que la fascination de l'argent et la sensibilité à Narcisse est aussi bien exacerbée. Ces pratiques sont bien attestées en christianisme et elles montrent qu'il peut y avoir de parfaits hypocrites qui manient avec autant d'aisance les codes religieux afin de passer pour des personnes pieuses et les méthodes de la corruption pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors, quels sont les effets collatéraux de la corruption ? La corruption, ce n'est pas simplement le problème d'un enrichissement personnel illégal. Le problème, c'est d'abord que ça fait souffrir des personnes qui subissent l'injustice et qui sont lésées par ces pratiques. Il arrive aussi que la corruption tue. Et ceci n'est pas une métaphore. Ces effets pourraient être suffisants pour nous dissuader d'y participer, de mettre la main dans le pot. Mais considérons aussi que les pratiques liées à la corruption, que ce soit pour de l'argent ou pour flatter l'ego, s'inscrivent à contre-courant de l'expérience de l'apôtre Pierre qui mesure l'égale dignité dont bénéficient tous les humains au regard de Dieu. Nous pourrions ajouter sur un plan pratique et dans l'intérêt général que les pratiques liées à la corruption sont toujours mauvaises. C'est-à-dire que si l'argument théologique qui consiste à dire que nous sommes tous d'une égale dignité et que léser quelqu'un c'est léser l'ensemble, ne vous convainc pas. Si vous n'êtes pas particulièrement sensible à la souffrance de la victime, bien au moins, faites preuve d'utilitarisme comme Bentham et rendez-vous compte que les pratiques de corruption sont mauvaises. Parce que si vous faites passer un dossier pour de l'argent, ça veut dire que le dossier n'est pas très bon quand même. Si vous faites le recrutement de quelqu'un par amitié, ça veut dire que cette personne n'aurait pas été recrutée pour ses talents propres. C'est-à-dire que vous aboutissez à des décisions qui ne sont pas fabuleuses. Autrement dit, la corruption pratiquée par des êtres dépourvus de morale contribue très largement à la dérégulation de l'activité humaine et contribue très largement à des pratiques sauvages qu'il faut enrayer pour préserver les plus faibles, ceux qui ont le moins de chances de s'en sortir, dans un monde où l'homme cesse d'être le Messie, celui qui reçoit l'onction du Saint-Esprit, et où l'homme cesse donc d'être un Christ pour les autres, mais devient de plus en plus un loup. Mais en fait, on peut aussi considérer qu'il convient d'enrayer ces principes de corruption, tout simplement pour que le monde soit plus profitable. J'ajoute à cela que la corruption est un jeu où chacun se tient, un peu comme ce jeu où nous nous tenons par la barbichette. Les degrés de liberté se réduisent peu à peu, chacun étant tenu par les pratiques douteuses, illégales, non morales, mortifères, assassines. C'est le principe du système mafieux. Une fois que je t'ai fait commettre un crime et que j'en suis témoin, je te tiens. Et là, le cercle vicieux s'enclenche inexorablement. Autrement dit, le principe de la corruption, c'est de ligoter chacun dans une attitude qui, de bout en bout, conduira à une situation épouvantable. C'est le principe même de la dérégulation du marché que craignait Adam Smith si le marché n'est pas composé de personnes qui sont des êtres moraux. Et là, la main invisible, elle est en vacances quand il n'y a plus les êtres moraux. C'est comme une église, c'est comme une institution religieuse. Dieu est là à condition qu'il y ait des êtres moraux pour figurer Dieu. Alors, est-il possible de résister à la corruption ? Est-il possible de résister à la pieuvre ? Le pape François s'en sortira-t-il contre les mécanismes auxquels il doit faire face actuellement ? Eh bien, en fait, c'est précisément ce dont Dieu nous rend capables. Ou pour le dire dans des termes moins déistes, si notre foi s'attache à cette compréhension d'un monde libéré de ce système de valeurs qui doit tout à l'argent, qui doit tout à Narcisse, si nous nous libérons de ce système de valeurs qui consiste à mesurer notre bonheur en nous comparant aux voisins, et qui consiste à dire « je suis heureux parce que mon voisin est plus malheureux que moi », ou que nous comparons notre niveau de réalisation par rapport à ce que les autres possèdent à côté, eh bien oui, nous pouvons ne pas profiter d'un système corrompu sans en devenir malade. Ce n'est pas parce que je ne profiterai pas, moi aussi, de ces réductions abusives sur je ne sais quel produit ou quoi que ce soit, que je ne participerai pas à cette magouille qui consiste à avoir les avantages de ceci ou de cela, que j'en serai moins heureux. Nous pouvons ne pas entrer dans une telle combine sans pour autant passer à côté de notre vie. Bien au contraire. Ne pas profiter des dessous de table, des pots de vin, des petits arrangements, des flatteries, des cadeaux, de tout ce qui fera gonfler le portefeuille ou les chevilles, qu'importe. Est-ce là que se joue notre existence ? Est-ce que c'est dans les trésors qui peuvent être désingués par le verre et par la rouille que nous devons placer notre cœur ? Ou notre trésor est-il un peu plus haut vers le ciel, au sens de au-delà, au-delà du prêt à consommer. Il y a une chose qui nous revient. Il nous revient à nous en propre ici, communauté particulière. Nous qui, à notre manière, selon nos domaines respectifs, avons des responsabilités. On ne va pas faire de misérabilisme. Nous avons ici des responsabilités, des situations qui nous permettent d'enrayer des situations de corruption. Il y a des endroits où nous avons des leviers. Il y a des endroits où nous avons des marges de manœuvre, nous, personnellement, individuellement, pour enrayer ces mécanismes de corruption. Et c'est là une vocation qui nous est propre, parce que personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Seuls ceux qui sont décisionnaires peuvent agir directement sur les situations problématiques. Les autres se font inexorablement laminer lorsqu'ils veulent s'opposer à ces mécanismes-là. Un étudiant qui ne peut pas payer de bakchich pour son diplôme ou qui ne veut pas parce qu'il considère à juste titre que c'est sur les compétences universitaires qu'on doit être évolué et pas sur le capital financier de ses parents, cet étudiant face à un système bien en place n'a aucune chance de changer quoi que ce soit. Le changement ne peut se faire que de l'intérieur. Un professeur isolé n'a pas forcément beaucoup plus de chance. Mais pour l'empêcher, ce professeur, à mener à bien ce combat contre la corruption, alors il faudra que le système se dévoile. Il faudra que le système avance à découvert. Il faudra que le système déploie d'autant plus de moyens et cela sera d'autant plus visible et donc susceptible d'être plus facilement disqualifié. Nous le savons, cela ne va pas sans risque. Mais peut-on laisser faire à l'infini ces systèmes mafieux de corruption ? Eh bien, il en est de même pour toutes les situations. Qu'il s'agisse des petites combines ou des grosses rétrocommissions, qu'il y ait un aspect financier ou qu'une autre valeur soit en jeu. Notre foi, à vrai dire, peut difficilement transiger avec cela. Notre foi, c'est cet attachement viscéral et inconditionnel à ce mode d'existence qui consiste à ne faire acception de personne, à ne prendre personne en otage, mais à pratiquer la justice, cette justice telle que nous la comprenons à la lumière de l'Évangile. Et cela, nous le cultivons, nous, protestants, libéraux, par exemple. Nous le cultivons par des dialogues qui transcendent les frontières confessionnelles, religieuses, culturelles. Nous le cultivons par des dialogues qui attestent que nul n'est impur, que nul n'est impropre à la discussion, que nul n'est infâme. Ce qui nous empêche un peu, ce qui nous retient un peu de pratiquer l'injustice à l'égard de celui que l'on considère comme un frère, du coup. Eh bien, ces dialogues permettent de rompre les affinités qui existent entre une vision étriquée de la parenté de Dieu, l'autre nom de l'humanité, et les pratiques corrompues qui accordent toujours plus aux semblables et qui retirent toujours plus à ceux que nous considérons comme différents ou étrangers, dit le texte. Le dialogue interreligieux et tous les dialogues hors de notre cénacle, c'est la raison pour laquelle nous sommes friands de dialogues, ou que nous devrions l'être, eh bien, tous ces dialogues contribuent à ne pas laisser notre humanité se corrompre. Amen.